RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre magazine Place des Mauges. Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque semaine.
Place des Mauges, Laure Baudet et toute son équipe sur RCF Anjou.
Aujourd'hui, nous dépasserons un peu les frontières des Mauges puisque nous accueillons Myrtille et Cédric Bourrez, un jeune couple installé depuis peu dans le Layon. Ils ont créé leur propre domaine viticole. Le Clos Galerne, c'est son nom. Ces amoureux des vins de Loire nous diront ce qui les a amenés à se lancer dans ce projet familial. Mais avant d'entendre leur témoignage, Alice Ferchaud-Forcato nous mettra une fois de plus l'eau à la bouche avec un reportage sur les restaurants qui, localement, proposent des plats à emporter. Et dans l'immédiat, c'est d'écologie que nous allons parler. Mais sous un angle un peu original, car vous le savez ou non, certains établissements scolaires s'engagent dans des démarches de développement durable. Isor Devraux, c'est à vous.
Place des Mauges, et si on parlait de ce qui se passe?
Bonjour Isor.
Bonjour Laure. Oui, j'ai choisi ce sujet, car dans les Mauges et le Choletais, plusieurs établissements ont initié des démarches
d'amélioration continue pour le développement durable. Alors, j'ai mené l'enquête auprès de deux établissements. L'école primaire Graine de Vie, à la Boutouchère, à côté de Saint-Florent-le-Vieil, qui commence cette année la démarche, et le lycée professionnel Robert d'Arbrissel, à Chemillé, qui en est déjà à sa 8e année. Et il y en a d'autres.
Concrètement, que font ces établissements, Isor?
Alors, pour s'améliorer en développement durable, ils peuvent s'appuyer sur des programmes, des outils, et obtenir, s'ils le veulent, des labels. Alors, en France, il existe plusieurs labels. Le label D3E, qui est porté par le ministère de l'Éducation nationale, et le label Éco-École.
Éco-École.
Éco-École, exactement, c'est ça, Laure. Qui est porté par l'association Terre Agir et soutenu par le ministère. Alors, j'ai axé mes recherches sur le label Éco-École, qui a été choisi par les deux établissements dont je vous parlais.
Donc, ce label Éco-École, qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'il s'agit?
Alors, c'est un programme d'éducation au développement durable qui est applicable de la maternelle au lycée. Ce programme propose aux écoles 8 thématiques et chaque année, l'établissement choisit un thème différent. Par exemple, alimentation, déchets, énergie ou encore solidarité. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'il met vraiment l'élève au cœur du projet. D'ailleurs, ils élisent des élèves éco-délégués dès le primaire et portent des idées auprès des enseignants lors des comités de pilotage. Et il y a une méthodologie d'amélioration continue qui est mise en place avec les étapes de diagnostic, plan d'action, réalisation et analyse de l'écart. Et en fait, dès la phase de diagnostic, les élèves proposent des idées concrètes pour améliorer leur école. Et vraiment, ce programme est là pour aider l'établissement à améliorer son fonctionnement.
Finalement, c'est une vraie démarche qualité dès le plus jeune âge.
Exactement.
Vous avez des exemples de ce qui est mis en place concrètement dans les écoles?
Alors oui, cela peut paraître tout simple parfois. Par exemple, dans l'école primaire Graine de Vie à la Boutouchère, ils travaillent sur la thématique de l'alimentation. Et alors, les enfants ont constaté que beaucoup de pain était gaspillé à la cantine. Ils ont donc adapté la quantité aux besoins en dialoguant avec le cuisinier. Et pour les quelques quignons restants, ils les gardent et les donnent aux poules. Et en fait, ils ont eu l'idée tout seuls. Ils ont mis un compost dans l'école, ils vont faire un potager et les enseignants ont également adapté leur programme au thème. En sciences, ils étudient les saisons, le jardinage ou comment fabriquer un hôtel à insectes.
D'accord. Et vous nous parliez aussi du lycée de Chemillé. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place?
Oui, alors c'est des jeunes un peu plus âgés, donc au lycée professionnel Robert d'Arbrissel. Ils ont déjà travaillé pendant 7 ans sur différentes thématiques de ce label Éco-École. Et l'année dernière, ils ont choisi le thème « Solidarité ». Ils ont monté un projet humanitaire au Togo pour apporter des fournitures scolaires. Et d'autres ont pris l'initiative d'apprendre la langue des signes et ont organisé un concert de Noël en langue des signes pour les personnes malentendantes. Leurs actions ont même continué pendant le confinement en entretenant une correspondance écrite avec les personnes isolées, âgées ou handicapées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Laure, mais je trouve vraiment que c'est génial de vivre cela à l'école.
Oui, c'est effectivement une vraie chance. Et on a un retour sur la manière dont les élèves perçoivent cette démarche, ce qu'ils en retirent?
Alors, j'ai contacté Emeline, une maman d'élèves, qui me disait « On voit bien que la planète va mal. Mais plutôt que de culpabiliser les enfants, il vaut mieux leur faire aimer la planète. Et en fait, c'est exactement ça, cet esprit que promeut le label Éco-École. Faisons aimer la planète aux enfants. Sa fille a étudié les espèces protégées dans le cadre de ce programme, et depuis, elle est passionnée. Et je pense aussi à Robin, un élève de CM1 que j'ai eu au téléphone et qui m'a dit cette phrase que je trouve très inspirante. Il me disait « Ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est de voir cette nature pousser. Ça me réjouit, ça m'inspire, ça me donne envie de fleurir comme les fleurs. » Magnifique, non ?
Oui, c'est très poétique. Et on comprend bien que cette démarche aide les enfants à se rapprocher de la nature, à l'aimer et à la protéger.
Oui, ensuite, sur un tout autre plan, Flavie Le Goupil, la directrice de l'école Graines de Vie, me confiait que lors des comités de pilotage entre l'équipe enseignante et les éco-délégués, en fait, elle n'a pas l'impression d'échanger avec des enfants, tellement ils sont sérieux, investis, heureux d'être responsables. Par ce projet, l'enfant a les moyens de changer le monde en commençant par son école. Et puis, c'est aussi l'occasion de fédérer les familles autour de l'école et du projet. Et même, je dirais que ça fait résonance avec les gestes du quotidien à la maison. Comme m'a confié Emeline, une maman d'élève, le fait que cela vienne de l'école, cela porte plus que lorsque cela vient de la maison. Les enfants sont motivés. Et parfois, c'est même les enfants qui apprennent à leurs parents.
Alors Isor, il me semble que cette démarche écologique s'inscrit dans un programme plus vaste.
Oui, vous avez raison. Je pense qu'il est intéressant de rappeler le cadre international de cette démarche. Au niveau de la société, en 2016, l'ONU a fixé 17 objectifs de développement durable à horizon 2030, qui s'appliquent à tous les domaines d'activité, de l'industrie aux particuliers. Vraiment, enfin, nous sommes tous concernés. Et je ne vais pas vous lister les 17 objectifs, mais très simplement, on aborde la consommation, qu'elle soit énergétique, alimentaire, consommation en eau, la protection de la nature, la biodiversité, mais aussi l'humain, avec des notions d'égalité, d'instruction, de santé, de solidarité. À mon sens, c'est vraiment de l'écologie intégrale, comme en parle le pape François dans Laudato Si. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de constater que la société et l'Église vont dans le même sens sur ce sujet.
Merci Isor, on sent votre enthousiasme sur un sujet aussi fondamental.
Oui, je vous l'avoue Laure, j'ai vraiment adoré préparer cette chronique. Voir autant de jeunes s'engager gratuitement pour le bien commun, cela véhicule beaucoup d'espérance, je trouve.
Espérance que vous nous partagez et ça fait du bien. Merci Isor.
Place des Mauges, le rendez-vous des Choletais sur RCF Anjou.
La semaine dernière, vous vous en souvenez, nous vous avons présenté le restaurant Pâte Noire en cours d'installation à Cholet. Et aujourd'hui, on s'intéresse à nouveau au secteur de la restauration, cette fois sous un autre angle. Ce sont les formules à emporter que les restaurants choletais proposent qu'Alice Ferchaud-Forcato nous fait découvrir. D'ailleurs, d'où vous est venue cette idée d'enquêter sur ce thème, Alice ?
Eh bien, disons-leur qu'avec ce nouveau couvre-feu à 18h, je me suis tout simplement dit que nos soirées allaient toutes se ressembler. Fini les apéros dînatoires, fini les pizzas qu'on va chercher chez notre pizzaïolo préféré. Et bon, les soirées resto, n'en parlons pas, puisque déjà, cela fait quelques mois qu'on n'y a plus accès. Alors, en parallèle, je me sens vraiment inquiète pour tous ces professionnels de la restauration. On sait qu'ils souffrent de cette crise sanitaire et j'ai donc voulu en savoir plus sur leur réalité.
Alors, vous avez appelé une vingtaine de restaurants choletais, c'est ça ?
Oui, en effet. 23 restaurants que j'ai contactés et donc seulement 8 établissements maintiennent une activité partielle et proposent des formules à emporter. Donc, en résumé, 2 restaurants sur 3 sont totalement fermés, ce qui reste inquiétant pour ce secteur d'activité.
Bien sûr.
Et pour ceux qui proposent des plats à emporter, ils m'ont tous dit que leur chiffre d'affaires a baissé de 75 à 80%. Certains m'ont exprimé leur colère, leur désarroi, leur crainte de ne pas résister à cette crise. Mais tous font preuve d'une grande détermination pour continuer à proposer des formules à emporter. Le seul créneau finalement qui leur reste aujourd'hui. Donc leur passion de la cuisine, je l'ai vraiment ressentie. Leur souhait de ne pas perdre le lien avec les clients aussi. Et c'est cette motivation dont il m'a fait part qui m'a vraiment boostée pour connaître les différentes formules proposées.
Alors c'est parti, on fait le plein de bonnes adresses pour un resto à domicile.
Ah oui, c'est parti. Alors après tout, qu'on soit déjà amateur de restaurant gastronomique ou non, la période est un peu bizarre et c'est sans doute l'occasion pour un repas haut de gamme à domicile. Donc dans la catégorie des restaurants gastronomiques, on a Lourdes Histoires à Cholet qui se recentre sur un menu unique à commander dans la semaine, puis à retirer le samedi matin.
Alors on est vendredi, on sait ce qu'ils vont servir demain, samedi ?
Eh oui, demain, alors ravioles de canard accompagnées de céleri, coriandre et cacahuètes, dos de cabillaud et son risotto aux courges et kumquats, et puis pour couronner le tout, panna cotta à la vanille, aux ananas et à la mangue. Le menu est à 25€ et change donc toutes les semaines, enfin tous les week-ends.
D'accord.
Et puis, il y en a qui préféreront la viande. Donc, le bistrot du marché, pour ce week-end, propose un veau braisé accompagné de céleri, d'élianthis. C'est un légume oublié, au goût proche de celui des topinambours. Les modalités sont les mêmes. On commande en semaine et on retire le samedi. Il y a aussi le restaurant La Touchetière, qui devrait proposer un menu du week-end dans cette même fourchette de prix d'ici une à deux semaines. Le chef promet lui aussi des plats savoureux et adaptés au réchauffage.
Alors des super plats délicieux gastronomiques. Par contre, pour le service à table, on oublie.
Oui, on oublie. On oublie à moins que nos enfants n'aient envie d'en faire un jeu et de se prendre pour les serveurs ce week-end.
Pourquoi pas ? Alors, vous nous régalez, Alice, avec ces menus d'enseignes gastronomiques. Si on recherche des plats plus simples, quelles sont les possibilités ?
Alors, le restaurant Maï Cuisine, Maï comme le jardin du Maï, il a ouvert en août, c'est-à-dire en pleine crise sanitaire. Il propose des menus à retirer le samedi dans une fourchette de prix de 15 à 20€. Les plats sont mijotés, faciles à réchauffer et le chef propose même certaines tournées de livraison. Et puis, il propose aussi des menus tous les jours de la semaine, comme d'autres restaurants comme le Grain de Folie, le Bistrot de la Gare, la Dolce Vita. Eux aussi, dans une fourchette entre 10 et 14€ que l'on peut commander le matin et venir chercher sur place. Bon, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion pour les retraités autant que pour les actifs pour se faire un menu équilibré et préparé par des chefs cuisiniers. Et puis, j'allais dire, on n'oublie pas Nathalie de la Tarterie, qui est située rue de l'Orangerie, qui propose des veloutés de légumes divers et des tartes salées délicieuses, comme nos mamans pourraient nous en faire et avec une pointe d'originalité en plus.
Alors, on fait comment pour se tenir informé des menus de ces restaurants, Alice ?
Alors, c'est vrai que c'est plus facile si on a un profil Facebook parce qu'on peut aimer toutes ces pages de restaurateurs et ils publient leurs menus ou leurs formules. Néanmoins, avec un simple appel téléphonique, on peut aussi déterminer son choix. Et j'ai trouvé que tous les restaurateurs étaient tout à fait prêts à donner des informations et de manière à poser un choix qui nous plaise.
Alors, je voulais souligner aussi un point important de votre enquête téléphonique. On connaît bien désormais votre souci du zéro déchet. Et vous avez demandé aux restaurateurs s'il était possible d'apporter nos propres contenants, nos plats.
Oui, c'est ça.
C'est ce qu'ils vous ont répondu.
Alors, pour la plupart, ils sont OK. C'est vrai que ce n'est pas forcément une formule qui vient d'emblée dans leur proposition. Mais en l'occurrence, pour la plupart, on peut apporter son plat pour éviter les barquettes qui fileront à la poubelle. Dans tous les cas, ils ont choisi des barquettes faites de matières recyclées.
On nous voilà rassurés. Merci Alice, on a vraiment envie de se faire plaisir tout en soutenant ces restaurateurs. Sachez que la liste actualisée des services proposés en ce moment par les restaurants du Choletais est disponible sur le site internet de la ville de Cholet. Alors qu'à l'extérieur, le vent et la pluie sont plus qu'actifs, je vous propose un peu de légèreté avec Happy de Pharrell Williams. Bring me Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes dans Place des Mauges, seconde et dernière partie de notre émission. Et nous avons le plaisir d'accueillir un duo aujourd'hui, un mari et sa femme, installés à Rochefort-sur-Loire depuis peu. Lui est viticulteur, elle est astrophysicienne. Alors je le souligne, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une astrophysicienne en studio, même si aujourd'hui, elle est professeure de l'éducation nationale en maths, physique, enfin toutes ces matières qu'on adore. Cédric et Myrtille Bourrez, bienvenue. Vous avez quatre enfants, vous arrivez du Var et vous êtes tombés amoureux du Léon. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans la création d'un domaine viticole. Et c'est de cette aventure, un véritable projet familial, comme Myrtille me le disait, que vous allez nous parler.
Place des Mauges, l'instant interview.
Bonjour à vous, Myrtille et Cédric. Bonjour. Donc, on le disait, vous vous êtes lancé dans la création d'un domaine viticole dans le Léon. Première récolte en 2018. Et première bouteille, mise en bouteille, pardon, en février 2020, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est à peu près ça les dates ?
Je remets tout en place. Oui, c'est ça. Donc on s'est lancé dans l'aventure en 2018. Et comme on a fait un choix par rapport à des vinifications très longues, effectivement, nos premières bouteilles sont sorties qu'il y a peu.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce domaine ?
Bien sûr. Donc le Clos Gallerne, c'est un nouveau domaine familial durable et vivant. Notre maître mot, c'est se former, rechercher, innover pour améliorer notre savoir-faire et la qualité de nos sols et de nos vins en permanence. Le Clos Gallerne, c'est des vins de cépage, de terroir, de garde, de gastronomie, des vins raffinés et élégants. Nos cépages, c'est du chenin, on a encore un peu de chenin et un peu de cabernet franc et de gamay. Derrière nos vins se cache un savoir-faire dans le respect du temps. Ça, c'est hyper important pour nous. Une culture pérenne et un regard aiguisé sur la nature, des rendements faibles, la réalisation manuelle de chaque étape. Le Clos Gallerne, c'est un domaine familial nouveau, proposant une gamme complète de vins de terroir et qui ne laisse rien au hasard.
D'accord. Alors là, on a une magnifique présentation avec plein de mots-clés. On va reprendre un peu dans le détail. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est né ce projet, puisque vous n'êtes pas originaire de notre région. Vous arrivez du Var. Et puis, vous, Cédric, vous n'avez pas toujours été dans la viticulture.
Non.
Puisque c'est vous avez fait une reconversion professionnelle, je crois.
Oui, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant maçon dans la vieille pierre. Et la rencontre avec mon beau-frère qui est vigneron à Bagnols-sur-Mer, donc Vincent Parcé, qui m'a permis de voir que c'était possible d'en faire son métier.
D'accord.
Et donc j'ai fait une formation viticulture-œnologie à Marseille à l'époque. Et j'ai trouvé ma vocation. Maintenant, je suis heureux tous les matins de me lever pour aller travailler.
Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Moi ?
Si, mais un peu moins.
Si. Il aime la vie.
Je suis deux fois plus heureux aujourd'hui.
Bon, c'est merveilleux. Alors du coup, donc, vous avez fait cette formation et très très vite, vous vous êtes dit, on veut avoir notre propre domaine. Comment ça s'est fait ?
Ça s'est fait, on est parti, on a fait un séjour en Australie, on est rentré en France.
Alors pour madame, je crois. Hein.
Oui, c'était pour moi.
Pour le travail.
Dans les éoliennes, je crois.
Non, dans les télescopes.
Les télescopes, pardon.
Je suis partie robotiser un télescope en Australie. Donc,
rien que ça.
Embarquer mari et enfant. Et Cédric en a profité pour découvrir le vignoble australien.
D'accord, et pour réfléchir donc sur son futur projet.
C'est ça, exactement, parce que j'avais fait ma formation avant de partir. Et puis très vite, en rentrant plusieurs expériences en Côte-de-Provence, en terminant par un poste de maître de chai dans un domaine en Côte-de-Provence, l'idée de s'installer et de faire des vins qui sont vraiment à notre image, qui nous ressemblent vraiment à notre état d'esprit.
Alors, c'est quoi des vins à votre image ? Vous nous en avez dit un petit peu. Prendre le temps, donc une vinification longue, etc. Respecter la nature, c'est ça vos valeurs ?
Tout à fait. C'est vraiment à l'image de la vie qu'on mène, en final. Hein.
Oui, puis une recherche de l'excellence, de la qualité. Effectivement, je pense que c'est ça. Déjà par une culture biologique. Alors elle est labellisée biologique pour avoir un cadre, mais après On va bien au-delà, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à ce qui nous est demandé. Pour nous, c'est un état de vie, en fait.
D'accord, oui, vous n'êtes pas uniquement sur le cahier des charges du bio.
Exactement.
Non, on est Cédric est toujours dans la recherche, justement, de solutions qui pourraient avoir des alternatives à de la mécanisation, voir ce qu'on peut laisser. Est-ce qu'il y a... Par exemple, le travail du sol, c'est toujours une grande question. Est-ce qu'on passe toujours avec nos tracteurs ou pas?
Donc, d'accord.
Cette question-là, elle se pose chaque fois.
Et alors, du coup, vous passez avec vos tracteurs?
Alors, on passe bien sûr avec un tracteur, parce qu'il ne faut pas se laisser envahir non plus, mais on a plutôt dans l'optique de se dire il y a des herbes qui poussent sur nos sols, et en fait, on va s'en servir. Donc, on va les laisser pousser, puis on va les coucher. Ça va nous faire un paillage, par exemple, pour garder l'humidité, pour créer de l'humus. Donc, ça va favoriser la biodiversité et le côté vivant de nos sols. Parce que, il ne faut pas oublier qu'on est là de passage, et le chenin, ça fait 1000 ans qu'il est présent en Coteau du Layon. Si on peut porter notre pierre à l'édifice et que dans 1000 ans, ils soient encore là.
Ouais. Voilà. Et ces techniques dont vous nous parlez, c'est des techniques, j'allais dire, un peu empiriques, ou ce sont des choses que vous avez apprises par la rencontre avec d'autres vignerons
Alors, je dirais que c'est les deux, mais c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de choses qu'on apprend quand même de nos pères, des anciens aussi. Travailler ensemble, d'ailleurs, c'est ce qui nous a aussi motivés à venir nous installer là, c'est qu'il y a une ouverture entre vignerons qu'on retrouve...
Une entraide.
Une entraide, oui, qu'on ne retrouve pas ailleurs, et ça, ça n'a pas de prix.
C'est propre à ce métier ou c'est propre à notre région?
C'est propre à ici.
C'est propre à ici. Alors, du coup, parlez-nous de cette rencontre avec le Layon. Je crois que, Myrtille, vous avez été séduite par le côté vallon.
Moi, j'ai été séduite par les paysages.
On
cherchait un domaine. Cédric a toujours été amoureux des vins de Loire depuis longtemps. Il avait même fait un mémoire pendant ses études sur un domaine qui est juste à côté de chez nous.
Donc, d'accord.
C'était vraiment un lieu qu'il connaissait et qu'il attirait. Moi, un peu moins. J'avoue que j'aimais bien le soleil de Provence. Et j'avais du mal à l'envisager ailleurs. Et en fait, Cédric est venu tout seul pour la première fois. Il est revenu enchanté en me disant « Viens voir, c'est beau ». Et c'est vrai que pour moi, ça a été le déclic. Effectivement, ces côtés vallonnés, ces petites collines, ces paysages sont magnifiques.
Ouais.
Et ça m'a convaincue de venir.
Alors, donc vous êtes là depuis maintenant 3-4 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. On est arrivé en 2017.
Et donc, vous avez produit votre première cuvée, on va dire, l'année dernière.
Nos premières cuvées, en fait, le premier millésime, c'est 2018. Et les cuvées ont été mises en bouteille, c'était toute fin 2019, pour être exact. Et
d'accord.
On a commencé à commercialiser au mois de février 2020.
OK. Quelles sont les étapes pour produire, selon vous, un bon vin?
Grande question.
Grande question.
C'est
quoi l'expertise du Clos Galerne?
Pour moi, d'abord, c'était la recherche. On voulait s'installer sur des terroirs, des grands terroirs, où il y a une adéquation cépage-terroir. C'est le cas, on a de la chance avec le cépage emblématique d'ici, qui est le chenin, qui s'adapte super bien à tous les sols qu'on peut trouver chez nous. On est sur de la roche volcanique, avec très peu de terres arables. Et donc, on peut parler qu'il y a une notion de terroir déjà là, avec des sols comme ça, avec des faibles rendements. Mmh. Et puis,
c'est vrai que vous avez le temps de vous occuper de. Enfin, vous prenez le temps de vous occuper de chaque vigne, en fait.
Exactement.
On peut dire ça.
De pas avoir une trop grande surface pour pouvoir justement.
De la qualité.
Voilà, exactement.
Et du coup, vos clients sont plutôt du haut de gamme.
Alors, nos clients sont plutôt du haut de gamme. On travaillait quand même pas mal avec les restaurateurs, que je salue d'ailleurs aujourd'hui.
Ouais, on les salue, évidemment.
Je leur souhaite un bon courage.
Ouais.
Donc oui, on est plutôt sur des vins haut de gamme.
Des vins de garde.
Des
vins de garde, oui, d'accord.
Je pense que c'est une spécificité. C'est des vins qu'on peut boire maintenant, mais qu'on peut garder 10, 15 ans facilement, même pour des Anjou blancs. Donc,
d'accord.
C'est vraiment quelque chose qu'on a cherché à faire. Ouais. Et ce côté vin de garde est donné par la longueur un peu de la vinification. Cédric laisse faire, non pas pour ne pas intervenir par flemme, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas pour ne pas brusquer les choses en fait.
D'accord.
Et ce côté donc de laisser le temps va le permettre au vin de garder une propension à pouvoir être gardé longtemps après en bouteille en fait.
D'accord. C'est ce qui garantit la qualité dans la durée.
C'est ce qui garantit la qualité dans la durée, mais même la garantie organoleptique du vin proprement dit au départ. On n'est pas sur des vins d'apéritif, on est vraiment sur des vins de gastronomie. avec des arômes, des bouquets complètement différents, qui sont dus à nos terroirs, parce qu'on vinifie vraiment tous nos vins de la même manière, mmh. de la culture de la vigne jusqu'à la mise en bouteille, c'est une reproduction de gestes. Et là, on a quand même 8 vins, et c'est 8 vins complètement différents.
Alors, dernière question, c'est un projet que vous me décriviez comme étant familial. Vos enfants, ils sont heureux de ce projet ?
Oui, ils sont très heureux. Ils sont
le
très
changement heureux. De vie leur convient ?
Bah, ils habitaient déjà sur un domaine viticole, ah oui, donc ce n'est pas fait... un grand changement. sauf que là,
ils sont en train de s'initier à un nouveau type de vin.
Mais après, ils connaissent déjà toutes les étapes.
D'accord.
Et jusque même la dégustation de vin, on les a initiés.
Vous avez raison. Alors, pour vous rencontrer ou venir découvrir le Clos Galerne, comment on fait ?
Donc, eh ben, il faut prendre rendez-vous, soit par le biais du site internet clogalerne.com ou nous envoyer un mail sur contact@clogalerne.com.
Sur Facebook.
Sur Facebook ou Instagram.
Voilà. Pour venir déguster et nous rencontrer, c'est surtout sur rendez-vous parce qu'on n'a pas encore on n'a pas de magasin à proprement dire avec quelqu'un qui puisse se recevoir
en permanence.
Mais en revanche, on peut nous trouver dans différents cavistes aussi d'Angers pour découvrir les vins. Enfin, voilà.
D'accord. Bon, je pense qu'on retrouvera toutes ces informations sur Facebook. En tout cas, un immense merci d'avoir été nos invités. Myrtille et Cédric Bourrez, c'est un récit passionnant, un changement de vie. Il en faut du courage, de la détermination et de l'envie pour mener à bien ce type de projet. On souhaite évidemment longue vie au Clos Galerne. Et vous pouvez compter sur l'équipe de Place des Mauges pour venir vous visiter et sans doute déguster votre production.
Avec joie.
C'est ainsi que s'achève notre émission Place des Mauges pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter cette émission du jour demain à 17h. Et bien sûr, en podcast sur le site www.rcf.fr.